Bonsoir. Les tensions et les violences en Guadeloupe au centre d'une réunion de crise interministérielle présidée en ce moment par les ministres Darmanin et Lecornu sur place en Guadeloupe. Les blocages ont repris après une nouvelle nuit de pillage et d'incendie. Nous serons à Pointe-à-Pitre dans un instant. 35 000 manifestants à Vienne pour protester contre le confinement et la vaccination obligatoire. Une manifestation à l'appel du FPE, le parti d'extrême droite autrichien. À Paris, manifestation également à l'appel du collectif Nous Toutes contre les violences sexistes et sexuelles. Dans ce journal également, le plan tourisme du gouvernement et le rendez-vous événement ce soir en rugby. L'équipe de France reçoit les All Blacks. Le temps pour demain, nuages, grisailles et le froid qui arrive. Jean-Michel Golinski à la fin de ce journal.
France Inter.
Le gouvernement suit donc de très près la situation qui s'embrase en Guadeloupe sur fond de crise sanitaire. Une cellule de crise interministérielle se tient en ce moment, présidée par les ministres de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et des Outre-mer, Sébastien Lecornu. Une réunion pour voir quelles nouvelles mesures peuvent être prises après les violences de ces derniers jours. Hier soir, un couvre-feu a été instauré en Guadeloupe et ce matin, les blocages ont repris après une nouvelle nuit de pillage et d'incendie liés à la mobilisation contre le passe sanitaire. La police fait état de tirs à balles réelles contre les forces de l'ordre, contre des gendarmes mobiles et un véhicule de police. Aujourd'hui, de nombreuses routes restent bloquées par les barrages et le préfet de Guadeloupe demande de laisser passer les véhicules de secours et les spations. Le CHU de Pointe-à-Pitre était quasiment inaccessible ces derniers jours. Reportage à Pointe-à-Pitre, Farid Anouar.
Il faut slalomer entre des débris, des carcasses de voitures, des pneus encore fumants. Mais rejoindre l'hôpital aujourd'hui est plus facile qu'hier, car les manifestants qui contrôlaient ces mêmes barrages ne sont pas là. Aux urgences du CHU, Georges attend sa femme blessée à la jambe.
On a appelé le SAMU dans la nuit. Il y avait quand même quelques barrages, mais ils nous ont laissé passer.
Aurélien a fait une crise de calcul rénaux. Il a appelé les pompiers sur la route.
Ils ont vu que c'était une urgence, donc ils l'ont laissé passer.
Il semble donc que les bloqueurs aient entendu le message du préfet. Mais les soignants suspendus qui refusent de se faire vacciner, eux, contrôlent toujours l'accès du CHU. Mais positionnés à l'entrée, Véronique, agent hospitalier, assure que n'empêche en rien l'accès à l'hôpital.
Mais jamais, nous sommes des soignants avant tout, on connaît la pathologie, donc on ne peut pas empêcher à quelqu'un d'avoir accès aux soins, comme on peut pas empêcher un soignant d'aller soigner.
Mais à cause de ces suspensions, des blocages, le CHU fonctionne en mode dégradé. En chirurgie, des opérations sont reportées, mais Véronique assure, ils ne plieront pas les premiers.
Nous pas calaguer, on va pas lâcher, il faut que ce soit le gouvernement qui cède. De la même manière qu'il y a eu une dérogation pour l'utilisation du chlordécone dans les départements français, il va avoir une dérogation pour la non-obligation vaccinale. Ils pourront le continuer en métropole, c'est pas grave, mais on aura une dérogation pour l'annuler chez nous.
Le préfet de Guadeloupe appelle une nouvelle fois les manifestants à cesser les exactions et les entraves à la circulation.
Reportage de Farid Anouar à Pointe-à-Pitre et dans une Europe redevenue l'épicentre de l'épidémie. Les mesures de restriction ont du mal à passer, notamment en Autriche. Des dizaines de milliers de personnes, dont de nombreux partisans de l'extrême droite, ont manifesté aujourd'hui à Vienne pour protester contre le confinement de l'ensemble de la population à partir de lundi. L'Autriche est également le premier pays européen à rendre la vaccination obligatoire à partir du mois de février prochain. Des mesures très contestées dans la rue où de nombreux manifestants brandissaient des pancartes et des slogans pour dire non à la vaccination et à bas la dictature fasciste. Angelica, une manifestante d'une cinquantaine d'années non vaccinée avec les psoriasis.
Meiner Meinung nach, es gibt absolut keine Pflicht.
D'après moi, il ne faudrait aucune obligation, quelle qu'elle soit. Chacun doit pouvoir décider pour soi-même. Il faut laisser la liberté aux gens qui ne souhaitent pas se faire vacciner, que ce soit pour des raisons médicales ou parce qu'ils ont une autre opinion. Je considère cette situation comme non démocratique et ça me fait beaucoup de peine. Mon cœur est brisé car je ne souhaite pas ça à ma chère Autriche.
À Paris et dans une cinquantaine de villes de France aujourd'hui, les manifestants se sont mobilisés contre les violences sexistes et sexuelles et pour demander davantage d'actions politiques. Le collectif féministe Nous Toutes, à l'origine de cette journée de mobilisation, est déterminé à secouer le pays. Les violences ne sont pas une fatalité, mais il faut, selon le collectif, exiger des politiques publiques à la hauteur de ce fléau. La manifestation qui a regroupé 50 000 personnes, selon les organisateurs, 18 000, selon la police, est arrivé ce soir à Nation. Marion Ferrer a rencontré un groupe de manifestantes, quatre copines, Léa, Mirabel, Farah et Mathilde, qui n'ont d'autre choix que de descendre dans la rue pour faire entendre leur colère. Selon elle, l'égalité homme-femme, c'est un combat le plus tôt possible.
Bah, bien sûr, mais même avant le collège, même dès le début de l'école, pour qu'on apprenne à toutes et à tous qu'est-ce que l'égalité et qu'on est tous pareils.
C'est quoi d'être une femme aujourd'hui de 22 ans en France ? C'est compliqué en soirée, à l'école ?
C'est avoir peur. Le soir, on n'est jamais rassuré. Et être là, c'est montrer que c'est une cause qui nous tient à cœur et on aimerait que ça change. Et que être présente sur une manifestation, c'est le moyen de montrer que... Enfin, c'est essayer de faire quelque chose à notre échelle pour montrer aux décisionnaires qu'il y a des choses à faire et qu'il faut les faire, il y a des besoins et c'est impératif.
Il y en a qui disent qu'on en fait trop, qu'on se défend pas pour les bonnes choses. Si on se bat pour les petits détails, et c'est toujours trop, c'est pas comme ça qu'il faut faire ou des choses comme ça. Alors que c'est les personnes qui ne subissent pas justement les inégalités que nous on subit alors qu'on représente quand même la moitié de la population mondiale en étant des femmes.
En politique, le grand oral des candidats à l'investiture du Parti Les Républicains pour la présidentielle, Michel Barnier, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Philippe Juvin et Éric Ciotti, ont présenté cet après-midi leur programme pendant une heure chacun devant le Conseil national des Républicains, en quelque sorte le Parlement du Parti. Et demain soir, ils se retrouveront sur la chaîne CNews pour un troisième et avant-dernier débat pour confronter leur programme. Près de 2 milliards d'euros pour le tourisme, Jean Castex a présenté aujourd'hui. Aujourd'hui, un plan dit de reconquête pour relancer le tourisme en France et conforter la place de la France comme première destination touristique mondiale en nombre de visiteurs et pour devenir la première destination touristique mondiale pour les recettes issues du tourisme. Le Premier ministre en déplacement à Amboise en Indre-et-Loire a précisé que ce plan s'étalera sur 10 ans, Claire Chaudière.
Un cap fixé par le Premier ministre ce matin.
La France doit impérativement proposer une offre plus qualitative, ce qui suppose une montée en gamme, être en mesure de proposer des expériences avec davantage de valeur ajoutée, de sens.
Et pour y parvenir, le gouvernement veut investir dans la rénovation des structures d'accueil, la formation, les offres touristiques innovantes hors des sentiers battus, accélérer le développement d'un tourisme durable aussi, nouveaux sentiers, nouvelles véloroutes, diagnostics pertinents et quasi inédits, mais un manque de moyens flagrant et donc un risque de saupoudrage, prévient Didier Arinaud du cabinet ProTourisme.
Bon, ça c'est certainement le jeu du politique, mais saluons tout de même la prise en compte des véritables problématiques. Il y a une vision tout à fait juste, c'est la première fois que l'on voit cela depuis 30 ans.
Gros regret tout de même pour Dominique Marcel, président de l'Alliance France Tourisme, le manque d'ambition, dit-il, en matière de modernisation des transports du Charles de Gaulle Express, toujours attendu aux réseaux régionaux.
C'est ce maillage qui doit être réalisé. Si on veut exploiter au maximum toutes les offres, les sites que nous avons, et vous savez que la France a une diversité, une richesse incomparable, il faut faire en sorte que les visiteurs y aille de manière la plus fluide.
Un plan qui n'est qu'une première étape, conclut ce représentant d'une partie des acteurs du tourisme. Sur le 1,9 milliard annoncé, environ 2/3 prendront la forme de prêts au secteur concerné.
Le bilan risque de s'alourdir. 4 mois après les incendies meurtriers qui ont frappé le Var, il faisait état de 2 morts au mois d'août. Un 3e corps a été découvert aujourd'hui à Cogolin. Si la gendarmerie n'a pas formellement lié ce corps aux incendies de l'été, le parquet, de son côté, évoque clairement un lien avec ce feu qui a ravagé le massif des morts et l'arrière-pays de Saint-Tropez. Sur les réseaux sociaux et Twitter notamment, le hashtag « Où est Peng Shuai ?» est devenu viral. Le monde du tennis, mais aussi les États-Unis, la France et l'ONU s'inquiètent de la disparition de la joueuse de tennis chinoise Peng Shuai. Un média d'État chinois affirme que la championne réapparaîtra bientôt. 4 photos prétendument récentes de Peng Shuai ont été publiées aujourd'hui sur les réseaux sociaux. La joueuse a accusé ce mois-ci un ancien haut dirigeant chinois de l'avoir violée et depuis, elle n'est plus apparue. Le tennisman français Nicolas Mahut menace de ne pas aller jouer en Chine. Nicolas Mahut regrette l'absence de réaction de la Fédération internationale de tennis, mais il salue la prise de position du président de l'association des joueuses ainsi que l'initiative du journal L'Équipe qui a fait sa une aujourd'hui sur Peng Shuai.
C'est bien que L'Équipe fasse une, mais il y a quand même la WTA et Simon a réagi fortement et a montré un vrai leadership. L'ATP a emboîté le pas. Moi, je suis très déçu du statement de ITF et encore plus d'Agarty, son président, qui pour moi était inexistant depuis le départ. Je trouve que c'est assez embarrassant à quelques mois des Jeux Olympiques en Chine. Ça fait quelques temps maintenant qu'on parle d'unité. Il n'y a pas meilleur moment que de le prouver. Mais bon, ça commence mal quand il y a l'ITF qui, pour l'instant, est à la traîne là-dessus. Mais oui, individuellement, moi, c'est certain que si les choses n'évoluaient pas, je n'irais pas jouer là-bas. Mais individuellement, on ne peut pas faire grand-chose.
Voilà, Nicolas Mahut. Et puis, le rendez-vous ce soir en rugby. France All Black, 21h au Stade de France. Le test match de référence de la tournée d'automne après la Géorgie et l'Argentine. Les Bleus à l'épreuve des Blacks pour mieux connaître le niveau de l'équipe de France à 2 ans de la Coupe du Monde. En direct du Stade de France, on retrouve Fanny Lechevestrier. Bonsoir Fanny.
Bonsoir Frédéric.
Alors, quelle soirée de rugby avec des Blacks qui vont jouer en blanc et l'ambiance qui monte à 2h du coup d'envoi.
Oui, ça fait des années, pour ne pas dire, c'est très rare ce qu'on a vu en arrivant ici au Stade de France. Pour vous raconter un petit peu notre vie, on a mis plus d'une heure et demie pour arriver, pour faire une dizaine de kilomètres. Et sur le parvis du Stade de France, énormément de spectateurs déjà présents pour assister bien à ce grand rendez-vous. Vous l'avez dit, France All Blacks, plus de 80 000 spectateurs sont attendus ici, stade plein, pour espérer enfin une victoire tricolore. On le rappelle, cela fait 21 ans que les Bleus ne se sont plus imposés face aux Néo-Zélandais en France. La dernière fois, c'était le 18 novembre 2000 à Marseille. Et là, on sent qu'il peut se passer enfin quelque chose avec cette nouvelle génération du rugby tricolore emmenée et symbolisée par le capitaine Antoine Dupont. Alors, va-t-il y avoir victoire ? En tout cas, ce qui est certain, Frédéric, c'est qu'il va y avoir un grand match ce soir à vivre au Stade de France et précédé, on le rappelle, du fameux AK des Néo-Zélandais sera également présenté la Coupe du Monde 2023, Coupe du Monde qui, on le rappelle, aura lieu en France dans 2 ans.
Et vous nous ferez vivre ce match événement ce soir, Fanny Lechevestrier. Merci, une information de bon augure. Cet après-midi, l'équipe de France féminine a dominé les fougères noires néo-zélandaises 29 à 7 et 4 essais à 1. C'est la deuxième victoire d'affilée en une semaine pour les Françaises face aux joueuses néo-zélandaises. Un mot de karaté et un exploit près de 4 mois après son sacre à Tokyo. Steven Da Costa a conservé aujourd'hui son titre de champion du monde dans la catégorie des moins de 67 kilos. Le Français, premier champion olympique de la discipline, décroche à 24 ans son deuxième titre mondial. Et puis en football, le PSG s'est imposé ce soir face à Nantes 3-1, une victoire donc avant de se rendre à Manchester City mercredi en Ligue des Champions. Pour terminer, le festival de musique Pitchfork en ce moment dans 10 salles à Paris jusqu'à demain. Pitchfork est devenu une véritable institution dans la pop, le rock ou encore le jazz et le hip-hop, avec beaucoup de groupes anglais qui subissent de plein fouet les conditions imposées par le Brexit avec de lourdes conséquences administratives et financières pour les musiciens, Mathieu Culeron.
Depuis le Brexit, les groupes britanniques vivent un véritable cauchemar. Certains pays européens réclament désormais des visas de travail et les taxes se multiplient, rendant l'économie des groupes en devenir fragile et dangereusement précaire. Julien Catala est directeur du Pitchfork Music Festival qui se déroule en ce moment et il fait également tourner de nombreux groupes anglais via sa société Super.
C'est quand même beaucoup plus compliqué au niveau de l'administration, il y a beaucoup plus de papiers à faire. Il y a plus de taxes aussi pour les artistes eux-mêmes, donc ça coûte plus cher à l'artiste anglais de venir jouer en France. Donc nous, en moyen terme, pour l'organisation des concerts, ça va être plus compliqué pour nous, mais c'est clairement quand même plus compliqué pour les groupes eux-mêmes de tourner.
Parmi les groupes anglais remarqués qui ont joué hier au festival Pitchfork à Paris, Wet Leg, qui joueront également début décembre au Transmusical de Rennes, son directeur Jean-Louis Brossard, lui aussi constate la difficulté pour les groupes anglais.
Pour des jeunes groupes où il n'y a pas vraiment d'aide, qui sont pas signés sur une majeure, etc., tout ça, ça va être beaucoup plus difficile. Bon, pour les gros groupes, là, l'argent est toujours là, hein. Donc tous ces musiciens anglais, jeunes, si tu veux, ils ont tous des jobs à côté pour manger. Enfin, tu vois, même des fois, ils ont 2 jobs.
Les pétitions se multiplient en Angleterre. Les jeunes groupes anglais crient leur détresse alors que la musique a rapporté près de 6 milliards de livres en 2019 à l'économie britannique. Les concerts, eux, ont rapporté près de 120 millions.
Voilà, et avec la musique de Wet Leg, le duo originaire de l'île de White Claw pourra réentendre le 1er décembre prochain à Rennes pour les Transmusicales.